Alors, j'avais d'abord pensé à le titre que vous avez dit, c'est à propos du concept et du programme d'une sociologie de la réception culturelle, c'est-à-dire sur les liens entre les deux. Et grande part du matériel pour faire saisir la distance qu'il peut y avoir entre l'utilisation du concept théorique de réception, par une différence de formation masculine, simple, pas simple, à partir du moment. C'est donc ces deux programmes de recherche, et pas seulement sociologie, historique et anthropologie, de ces deux programmes de recherche, sociologie de la consommation et sociologie de la réception, c'est justement ce qui a été là le plus complètement présenté par Nahir. Par conséquent, je vais surtout revenir vers mon titre initial, qui est d'interroger la notion, le concept, comme vous voulez, de réception dans le rôle qu'il a joué, qu'il joue d'une rôle croissante dans les sciences sociales. Par les sciences sociales, en cet immense domaine qui est celui de la connaissance et de la compréhension des phénomènes de communication culturelle, ou symbolique, peut-on dire aussi. C'est-à-dire qui, par définition, ne se réduisent pas aux relations matérielles entre les interactions d'acteurs. C'est-à-dire ce qu'autonomise, au fond, l'économie, y compris l'économie de la culture. Et donc, mon titre convie à se demander si les programmes tels qu'ils ont été fortement engagés depuis, disons, le dernier tiers du XXe siècle, enfin en France, mais en Europe, sauf en Allemagne, parce que l'influence de Jauss à propos de la réception esthétique et essentiellement des œuvres littéraires, soit plus largement dans le cadre de l'influence croissante qu'a exercée l'analyse formaliste, ce qu'on appelle le formalisme russe ou les écoles linguistiques pragoises, etc., ont fortement encouragé ce, pardon, vite, dépassement d'une sociologie ou d'une sociographie des publics. Alors, l'idée, elle est simple. C'est que ce concept apparu pour réorganiser, pour étendre ou pour transformer les méthodes de description des faits culturels et du même coup les démarches d'explication, entre tout ça appartient à la sociologie, il reste depuis Durkheim un causalisme que la sociologie ne peut indiquer, et d'interprétation de ces faits culturels, il reste évidemment cet acquis, à mon avis, aussi indépassable, et qui peut très bien être associé à celui de Durkheim, et qui est celui de Weber, d'une sociologie de compréhension. Alors, l'idée que je voudrais illustrer, parce que j'en viendrai assez vite au fond, un exemple, c'est d'une réception culturelle qui est celle de la peinture, puisque j'ai consacré une enquête, c'est que ce concept, en son ambition, est un concept exigeant au sens épistémologique. C'est-à-dire exigeant, ça ne veut pas dire qu'il faut être un fort théoricien pour s'en servir, pour l'articuler avec d'autres concepts théoriques, mais exigeant en surcroît d'exigences empiriques imposées par le concept. Ou alors il ne veut rien dire. Enfin, ou alors c'est un flatus vocis, comme bien d'autres termes. Bref, ce que je présente là, c'est plutôt, à propos de la réception, un cas particulier de quelque chose qui est vrai dans tous les travaux empiriques, sciences sociales, sociologie, histoire et anthropologie, à savoir que, à défaut d'imposer aux chercheurs un surcroît d'exigences de description empirique, alors les concepts les plus ambitieux, non seulement ne servent à rien, n'enrichissent pas la description, mais jettent un voile sur le vide d'explications supplémentaires ou de compréhension supplémentaire qu'ils devraient apporter. Et par conséquent, à propos de réception, on pourrait dire la même chose de tant de concepts utilisés depuis les philosophies sociales du XIXe siècle, de tant de concepts comme ceux de progrès, de dialectique, de champ, d'habitus, etc. C'est-à-dire dont vous pouvez voir qu'il peut donner lieu à des avancées dans la précision ou l'acuité des descriptions chez certains auteurs, parce que vous avez des champs, par exemple, je pense bien que l'usage descriptif qu'elle a fait évoquer, par exemple au propos du champ littéraire, c'est un surcroît de connaissances par rapport à l'origine de ce concept, qui existait déjà, comme tous les concepts qui viennent de loin en général, qui était celui de Kurzweil, c'est-à-dire des gestaltistes. Mais que, et c'est à cela que les chercheurs débutants en particulier, sont confrontés, c'est à se défier tout particulièrement de l'usage du psittacisme lexicologique, c'est-à-dire, j'ai dit dans trop de thèses souvent, utiliser aussi bien le concept d'intégration au sens burkénien que d'interprétation d'octu au sens libérien, comme d'un simple mot, c'est-à-dire que ce qu'asserte la phrase du sociologue, de l'historien, etc., vous pourriez, par une commutation énonciative, la purger de ces mots-là, vous ne perdez rien de la quantité d'informations qu'il délivre. Alors c'est vrai, en particulier, à l'époque, quand je faisais cette analyse de la commutation énonciative sur les textes des sociologues, c'était vrai tout particulièrement du mot de structure ou de système, par exemple. Donc la question que je vais vous poser, le concept de réception, mais comme à d'autres, c'est quand vous lisiez la structure des rapports entre le système d'enseignement et le système économique, est ici particulièrement forte. Alors, vous enlevez structure, vous enlevez système, etc., et vous dites les rapports entre l'école et l'économie sont attestés dans ces chiffres-là. Vous ne perdez rien, autrement dit, les mots n'ont pas servi à soit intensifier la compréhension théorique du phénomène, soit ne l'ont pas illustré plus largement, ou de manière plus aiguë, et de manière plus probante, par exemple. Voilà. Donc, c'est cette question qui est posée à la notion de réception a conduit, par exemple, à lire, à présenter d'abord peut-être comme une différence sociologie de la consommation culturelle versus sociologie de la réception culturelle, puis à modifier complètement cette opposition, puisqu'en réalité, on peut qu'insister sur le même thème, puisque la sociologie de la réception n'est pas un programme alternatif, comme en philosophie, le programme idéaliste se veut un programme alternatif du programme idéaliste de description de la connaissance. Il n'est pas alternatif, et je dirais même qu'il le comprend, qu'il intègre, qu'il inclut. La plupart des éléments d'une sociologie de la réception, des œuvres par exemple, sont dans le programme d'une sociologie de la consommation des œuvres d'art ou de la culture, des biens culturels sous toutes les formes où ils peuvent se présenter. Simplement, une sociologie de la réception, par le concept qu'elle veut utiliser, étend le champ empirique des questions qu'il faut poser à travers l'observation ou à travers l'analyse statistique, etc. Donc, il ne s'agit pas d'une opposition, il s'agit simplement, peut-on dire, d'une extension ou d'un approfondissement, une métaphore pas très utile, enfin, elles sont indifférentes. Et donc, je crois que c'est cela que nous pose comme exigence l'apparition de ce concept, de donc rappeler l'histoire de ce renouvellement qui vient en France. Donc assez tardivement, dans le siècle de la traduction en français, d'un texte sur l'esthétique de la réception, qui ne se réduit pas à Gauss, hein, parce que c'est toute une école, l'école dite de Constance, qui a multiplié ses travaux sur les œuvres littéraires, c'est-à-dire sur la manière dont le sens d'une œuvre, ce qu'on appelle le sens de cette époque du roman, ou de cet auteur, ou de cette musique, de Wagner, de Stendhal, etc., ne peut pas être dissocié du sens que construit et donc coproduit en l'écoutant le personnage oublié jusque-là, c'est-à-dire le récepteur, en l'occurrence le lecteur. Le lecteur contribue. Il avait deux tentations antérieures, c'est de réduire soit le sens d'une œuvre à l'intention de l'auteur, de l'émetteur d'un message, soit à des propriétés qui seraient tout entières contenues dans l'œuvre, dans sa structure matérielle, c'est-à-dire dans les phrases, l'agencement des phrases, dans son agencement pictural, etc. Et donc, c'est contre cette autonomisation de la signification qui devient une signification substantielle. Le sens, comme quand les philosophes, ça continue, peuvent s'interroger sur le sens du vrai christianisme, du christianisme en soi. Est-ce qu'il est adultéré par... Enfin, c'était l'objection de Weber à ces gens qui s'interrogent sur le sens premier, profond, intrinsèque du christianisme, en disant ça c'est un enrichissement, ça c'est une déchéance, c'est une décadence, etc. Et de la même manière, le sens de l'œuvre de Victor Hugo, de Stendhal ou de Flaubert, il y a eu les études littéraires ont longtemps été emprisonnées dans l'étude de l'œuvre, ne laissant aux analyses externes que l'analyse des conditions de la production de l'œuvre. Sous sa forme la plus matérialiste ou la plus caricaturale, c'était le climat. À propos de La Fontaine, c'était une thème sur la Champagne. Le climat, l'époque et la nationalité. Ou la vie, de même, comme ça sera un très léger déplacement, que de dire la classe sociale. Dans les marxismes, comme celui de Plekhanov, par exemple, assez mécanique. Donc, l'idée de réception apporte avec elle la mise en œuvre à propos des messages culturels et des œuvres de l'idée weberienne qu'il n'y a de sociologie que si, outre qu'elle garde une vision causale et explicative, elle l'étend à une deuxième adéquation qui est celle de l'adéquation par rapport au sens, quant au sens, synart. Et donc, les explications du sociologue doivent essayer d'être aussi adéquate, ou qu'elles doivent être adéquates causalement, et Weber nomme la déclaration statistique. Il faut qu'on puisse montrer qu'il y a bien une relation à travers les chiffres entre ce qui est affirmé d'un public ou d'un groupe social et ses attitudes ou ses comportements. Mais qu'une deuxième adéquation, c'est qu'elle doit rassembler les documents empiriques. Ça s'appelle Deutung, interpréter, pour faire comprendre cette correspondance statistique. C'est donc sur la lancée de, et qui effectivement a été freinée ou presque ostracisée en France par l'objectivisme durkheimien, et c'est donc sur cette avancée de l'idée de sens des relations sociales, ou de ce qui circule dans les relations sociales, des biens, quels qu'ils soient, des biens sociaux, que le concept de réception a développé des programmes, enfin, des questions, à tout le moins, en sociologie de la culture. Par conséquent, au passage, une ambiguïté, pour le mauvais usage, l'usage aplatissant du concept de réception, c'est qu'il a aussi une autre origine, c'est presque une synonymie, n'oubliez que j'appellerai dans le modèle cybernétique, qui a joué un rôle d'ailleurs dans les sciences sociales, le mot réception ou récepteur désigne un modèle où vous dessinez un émetteur, qui peut être un auteur, un producteur, de sens ou de bien, et puis vous faites une petite flèche et vous mettez message là, il émet un message, et puis vous faites une troisième colonne et vous mettez le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Alors ça n'a pratiquement rien à voir, puisqu'il s'agit là de la réception au sens de la compréhension stricte par rapport à ce qu'a voulu dire. C'est-à-dire, c'est là que le concept tiers est celui de code. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce que le récepteur possède ou non le code selon lequel a été crypté le message qu'il reçoit. Donc on dit récepteur ou destinataire, de même qu'on dit émetteur ou destinateur d'un message. Le problème, ne changeant pas de nature, dans ce modèle cybernétique, lorsque vous considérez que l'émetteur est un auteur, un créateur, comme on dit, c'est-à-dire qu'il produit de la singularité signifiante, des significations, un agencement de signification qui n'a pas encore circulé dans la société sous cette forme-là, de l'innovation, de l'invention, etc. Donc, il faut écarter ce sens aplatissant du terme de réception ou de récepteur, parce que ça, si on veut, ça encourage l'idée que le message passe ou ne passe pas. C'est une question de oui ou de non, selon que l'émetteur a codé dans un code, a encodé dans un code que possède ou ne possède pas le ou les récepteurs. Il y a des groupes sociaux qui le possèdent, d'autres qui ne le possèdent pas, etc. Vous voyez de quel côté de l'immatriculation, en quelque sorte administrative, des récepteurs, que ce soit par la classe sociale, par l'ethnie, par le niveau d'instruction, etc., tout ce modèle. Par conséquent, une fois écarté ce sens, c'est bien le deuxième sens dont on est d'ailleurs, qui a intéressé le développement des programmes en sociologie de la réception des biens culturels, c'est, comme Gauss l'a fait pour la littérature, de résumer de la manière, d'une manière, dans son langage du moins, puisqu'il parlait de littérature, pour le lecteur, c'est de remettre en tiers dans ce processus qui aboutit à l'instauration d'un sens social de l'œuvre, c'est-à-dire un sens qui existe, qui circule, qui transforme les attitudes, aussi bien les attitudes d'achat que les admirations, les admirations, les affiliations. Ce rôle actif qu'a un message culturel, il suppose non pas qu'on l'isole dans le message, dans l'œuvre, elle aura un pouvoir mobilisateur ou démobilisateur, non pas de l'auteur, lui seul, dans son pouvoir, le pouvoir miraculeux de l'œuvre, c'est ce que philosophe de l'art comme Malraux a développé. L'œuvre d'art, il n'y a pas d'autre définition que son pouvoir d'intervention transcendant sur les publics ou des admirations, comme le fut la croyance à un Dieu transcendant, d'où
peu près dire, comme M. Marot, d'ailleurs, il se trompe un peu, il s'est trompé bien après, en disant que le siècle suivant, le 21e, sera le siècle où les cathédrales ce seront les musées. Bon. Donc, le concept de réception attire l'attention, dans sa plus grande généralité, quand on le prend dans sa plus grande généralité, sur le fait que c'est une aventure du sens qui se déclenche dans la relation, disons plus précisément dans l'interaction culturelle. C'est une aventure du sens parce que celui qui est proposé par l'auteur, qui est confié ou qui est fignolé dans un message dont il fait changer les détails, qui réécrit sans cesse, etc., il ne prend valeur collective, donc plus objective que l'intention subjective de l'auteur, il ne prend valeur collective que par la coproduction du sens qu'effectue le récepteur. Et c'est la définition du récepteur que de coproduire le sens en lisant à sa manière le message et en interprétant à sa manière l'intention de l'auteur. Par conséquent, derrière cette aventure du sens, il n'y a pas seulement la notion de code, comme il n'y a pas pour autant, mais ne serait-ce que le code de la langue. Une langue naturelle, enfin une œuvre est écrite en anglais ou en français, c'est pas la même chose pour, comme disait pour Shakespeare. Par conséquent, bien sûr, il ne faut pas oublier les effets liés à la singularité, ou à l'idiosyncrasie des codes, ou à leur capacité à se prêter davantage au récit, au lyrisme, ou à la poésie, qu'à la prose narrative, etc. Bon, ceci est une parenthèse. L'idée essentielle est celle de coproduction par le récepteur, qui peut être donc, là, nous généralisons, aussi bien le lecteur que le spectateur, du théâtre, dans le théâtre antique, que dans les théâtres bourgeois, enfin aristocratiques, mais ensuite bourgeois à partir du 19e siècle, avec les publics, que le public de films, et des films d'avant-garde, ou des films classiques ou de grand public, etc., c'est dans tous ces cas-là, si l'on veut les publics, les publics doivent être décrits par les sociologues, afin de mieux comprendre ce qui se passe, doivent être décrits non pas seulement dans leur diversité, hein, nous sommes partis de là, les dernières parties de là, c'est-à-dire de ce qu'a été. Et déjà, c'était une révolution. Il ne faut pas oublier que la sociologie de la culture, au début du XXe siècle, en France comme ailleurs, par exemple, où les sociologues américains, déjà, celui de Veblen, étaient des études de la diversité. Enfin, c'était de la diversité. Il faut partir de la diversité. Et donc, évidemment, ne jamais employer le public, enfin, ne jamais penser le public au singulier comme un directeur de comme un directeur d'édition ou un directeur de l'Olympia. Le public, elle aura plus ou moins, je l'ai bien dit, etc. Il faut toujours penser avec un S, les publics, leur diversité, et dirais-je, bien avant la sociologie de la réception, avec Durkheim déjà, parce qu'il n'y a de sociologie que de la diversité sociale, que des différences sociales. Et moi, j'ai toujours ajouté, enfin, parce que là, je ne fais pas plus, des inégalités sociales, des inégalités, des conflits et des contradictions sociales. Autrement dit, chez Marx, comme chez Durkheim, comme chez Weber, etc., il n'y a pas de sociologie de la masse amorphe, de la collectivité en son caractère amorphe. Il n'y a pas de sociologie de l'homogénéité, ou alors c'est de la biologie, enfin de la neurologie, de la neuroscience, de vouloir remonter jusqu'à ce qui est matériellement conditionné comme universel et invariant dans l'espèce homo sapiens sapiens. Mais quand on commence avec les sciences historiques, sociologie, anthropologie et histoire, même avec récit d'un déroulement, alors on est en train de différencier pour comprendre.